Vous êtes sur RTL.
Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2800 jours après Rio, il y a 5 ans, le coup d'envoi des JO à Tokyo cette fois.
Avec une cérémonie d'ouverture dans un peu plus de 6 heures qui sera comme cette édition, presque sans public et très sobre, avec pour porter notre drapeau tricolore, Clarisse Agbegnénou et celui qui dispute déjà comme une épreuve avant la vraie, demain, Samir Aït Saïd. La nuit blanche des députés à l'Assemblée, le texte sur le pass sanitaire vient d'être adopté en première lecture. Direction maintenant le Sénat, alors que la flambée des cas se poursuit. On verra notamment la situation très préoccupante en Martinique. Et puis l'heure du bilan chaotique pour les producteurs de fruits après une saison entre gelée et pluie diluvienne.
RTL à Tokyo.
11 090 athlètes précisément sous les couleurs des 5 anneaux olympiques.
Les JO de Tokyo démarrent officiellement aujourd'hui avec à 13h heure française la cérémonie d'ouverture. Cérémonie qui a bien failli ne jamais se tenir en raison de l'épidémie. Mais après un an de report, elle aura bien lieu tout à l'heure, Nicolas Burnand, dans une version à l'image de ces Jeux sous haute protection sanitaire.
Oui, les organisateurs promettent une cérémonie simple et sobre en raison de la pandémie. Elle durera près de 3h30 avec des moments festifs et des tableaux musicaux qui feront référence à l'histoire et à la culture du Japon. L'empereur Naruhito, figure symbolique importante dans le pays, devrait faire son entrée à pied dans le stade. Un hommage sera également rendu aux victimes du tsunami de 2011, l'un des symboles de ces Jeux. L'identité du Japonais qui allumera la vasque olympique reste le secret le mieux gardé des JO. Elle sera alimentée pour la première fois par de l'hydrogène pour promouvoir un avenir sans carbone. La cérémonie se terminera par le traditionnel défilé des délégations. Les porte-drapeaux tricolores Clarisse Agbegnénou et Samir Aït Saïd défileront en avant-dernier en tant que futur pays hôte des Jeux. Le président français Emmanuel Macron sera dans les tribunes. Seul regret pour cette cérémonie d'ouverture, elle se déroulera sans public malgré les 68 000 places disponibles. Seulement 950 officiels ont été autorisés à y assister.
Nicolas Burnand, envoyé spécial de RTL à Tokyo. Et pour emmener la délégation française et ses 378 athlètes, vous l'entendiez, un binôme comme porte-drapeau, la judoka Clarisse Agbegnénou et Samir Aït Saïd. Le gymnaste qui va enchaîner dès demain avec sa propre compétition. Pas facile, on l'imagine, de remplir ce rôle tout en se préparant mentalement à l'épreuve. Mais pour Tony Estanguet, le patron des Jeux de 2024 et porte-drapeau en 2008, c'est une occasion unique qui ne se refuse pas.
Je comprends très bien que Samir ait souhaité malgré tout se porté candidat et été élu d'ailleurs par ses pairs, même si effectivement la proximité de son épreuve ne va pas lui faciliter la tâche.
Qu'est-ce que vous conseillez à Samir pour ce moment ?
Moi je lui souhaite de profiter, c'est vrai que le risque dans ces moments-là c'est justement de se dire comment je ne perds pas trop d'énergie, qu'est-ce qui va se passer pour mon épreuve sportive. Non, je pense qu'il faut cloisonner les deux sujets, il faut qu'il se concentre sur ce moment de porte-drapeau, c'est un moment unique, il ne revivra jamais, il faut qu'il en profite au maximum.
Tony Estanguet, le patron des JO de 2024 de Paris. Et justement, vous entendrez Samir Aït Saïd et Clarisse Agbegnénou tout à l'heure. Ils seront en ligne avec Stéphane Carpentier depuis Tokyo. Rendez-vous à 7h40. Enfin, votre rendez-vous quotidien pendant ces Jeux, c'est 18h30-19h. On refait les Jeux avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol.
Dans le reste de l'actualité, Hortense, la crise sanitaire et ce vote tout à l'heure à l'Assemblée.
Ouais, c'est fait depuis un peu moins d'une heure. Le texte du gouvernement sur le pass sanitaire est adopté par les députés en première lecture.
Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votants 231, exprimés 203, majorité 102 pour 117 contre 86. Le texte est donc adopté en première lecture.
Les débats donc tout à l'heure à l'Assemblée qui ont duré toute la nuit dans une ambiance parfois électrique et les passes d'armes entre le gouvernement et les différents partis qui ont fustigé plusieurs mesures. La balle est désormais dans le camp des sénateurs qui vont examiner le texte pour une adoption définitive voulue par l'exécutif d'ici la fin du week-end.
Un vote qui intervient dans un contexte de flambée des cas.
Ouais, le taux d'incidence dépasse désormais les 100 cas pour 100 000 habitants dans le pays et la situation est particulièrement préoccupante en Martinique. La balle, état d'urgence sanitaire, est en place depuis 10 jours, plus de 2000 cas positifs enregistrés en une semaine. C'est une première, une propagation inédite donc, doublée d'un faible taux de vaccination sur l'île Sinamia.
une vaccination et un pass sanitaire qui font toujours face à des résistances sur l'île. Oui, en témoignent ces manifestations contre l'obligation faite aux soignants. Capté encore il y a quelques jours par notre correspondante sur place Adeline Courson, uniquement 16% des Martiniquais sont aujourd'hui vaccinés, rappelle Stanislas Cazel, le préfet de l'île. C'est quasiment trois fois moins que dans l'Hexagone.
Pour deux raisons, d'abord sensibilité peut-être à la désinformation qui a été très forte, et puis aussi le fait que le virus a peu circulé en Martinique, et donc il y a une crainte très forte du vaccin et une crainte du virus qui n'est peut-être pas encore suffisamment importante pour cette prise de préoccupation.
Le couvre-feu instauré ainsi que la fermeture des restaurants en intérieur est actuellement censé faire redescendre la tension hospitalière. Cela a marché rapidement lors des trois vagues précédentes. Cela n'empêche pas Olivier Coudin, le directeur adjoint de l'ARS, de qualifier la situation de très préoccupante.
Le CHU de Martinique a dû ouvrir 80 lits supplémentaires en une dizaine de jours. En réanimation, en une semaine, de 6 à 16 lits en réanimation Covid.
Et à ce tableau s'ajoutent les violences qui ont émaillé le week-end dernier, le retour des restrictions jusqu'au tir à balles réelles sur les forces de l'ordre dans certains quartiers. Des affrontements à nouveau redoutés ce week-end.
Sinamir pour RTL. Par ailleurs, le pays a enregistré 22 000 nouvelles contaminations en 24 heures. La barre des 39 millions de primo-vaccinés est désormais franchie. Le cap des 40 millions fixé par le gouvernement devrait donc être atteint avant début août.
Vous êtes peut-être en train d'en manger et si oui, profitez-en car ils seront plus rares cette année. Je parle des fruits.
Après une année catastrophique pour les arboriculteurs entre les gelées du printemps et les pluies diluviennes des derniers jours, c'est l'heure du bilan et il est globalement mauvais. En Lorraine, par exemple, presque 100% de pertes pour les cerises et les abricots. C'est ce que vous avez constaté sur une exploitation du sud de Nancy à Coivillers, Dimitri Ramelot.
Premier mètre en voiture en bordure des 40 hectares d'arbres fruitiers. Benoît Parfait constate déjà les dégâts. Les cerises pendent aux branches, totalement flétries à cause du gel du printemps et des pluies de début juillet.
Bah les voilà, nos cerises, elles sont restées sur les arbres. On n'a rien pu faire pour les sauver. Il y a encore un mois, on pensait récolter des cerises. Au lieu d'en faire 20-22 tonnes de cerises, on a dû en faire 3 ou 4.
Et les récentes intempéries sont venues ruiner les cerises qui avaient survécu au gel grâce au chauffage dans le verger. Pas moyen même de faire du kirsch avec les toutes dernières en mauvais état.
Elles ont éclaté et comme elles étaient trempées, la pourriture s'est mise dedans et puis aucun débouché possible. Puis même, de toute façon, il faudrait y mettre de la main-d'œuvre pour des débouchés qui ne seraient pas rémunérateurs. Donc non, économiquement, on arrête.
Et l'arboriculteur de poursuivre son inspection, les pommiers devraient être récoltés à hauteur de 90%, les poires et mirabelles 70%, bien mieux que les abricots.
Alors les abricots, la première nuit, il y en avait déjà plus. C'était le 6 avril, gelé. On aurait pu espérer sur l'exploitation faire 25 tonnes d'abricots. On va en faire 25 kilos.
Et Benoît Parfait de se rassurer de produire également des légumes intacts qui permettent de limiter les pertes financières.
Un reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Enfin, c'est un record pour un film français depuis 2018 et c'était attendu vu l'impatience des fans de la série. Déjà 423 000 entrées depuis la sortie de Kaamelott mercredi. Wow. Et parmi les spectateurs, Dominique, ce pari un peu fou d'un Rémois qui s'est lancé le pari de battre un record. Voir le film 200 fois au cinéma.
Ça sert à quoi en fait?
Connaître les répliques par cœur.
Encore du monde.
En espérant qu'il a son passe sanitaire pour.
Oui, on l'espère aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.